15h
de l'après-midi.
Il est 15h.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
T'es ramené à un petit souvenir.
L'aléatoire.
L'aléatoire.
On ouvre les tiroirs de la mémoire de la radio du lundi au vendredi à 15h.
Du lundi au vendredi à 15h.
Oui, ça c'est une bonne surprise.
Vous faites du déjà vu, Madame Lancaster ?
Ah oui, mais ?
On se connaît ?
Ouais. On se connaît.
Mais c'est de la merde!
Bonjour et bienvenue dans Déjà Vu, le podcast cinéma qui parle des films et de leurs remakes. Peu connu, meilleur qu'à l'original ou carrément inutile, on est là pour les comparer et surtout pour trancher lequel est le meilleur. Aujourd'hui, autour de moi, la team de mercenaires habituels. Notre premier présent est passé maître dans l'art de fendre du bois tout en éventrant des ennemis à coups de hache. Il est tiraillé entre son désir de gloire et son besoin d'appartenance. Lorsqu'il découvre ensuite qu'on peut utiliser des armes à feu, il remet toute son existence en question. C'est Vincent.
Oui, bonsoir. J'adore couper des bûches.
Forcé par son père à se couper les cheveux, ses longs cheveux soyeux, pour ne pas attirer la convoitise des samouraïs, elle ne se prive pas néanmoins de rouler dans les parterres de fleurs et de se connecter au cliquetis de la rivière pour finalement succomber aux yeux revolvers d'un samouraï. C'est Géraldine.
Oui, bonjour. J'aime beaucoup Marc Lavoine, moi aussi.
Mué par un désir de vengeance, il parcourt les villages en quête de sens. Mais l'alcool lui fait perdre la tête. Et affublé d'un slip et d'un sabre, il rejoint finalement la troupe des samouraïs pour de courtes mais intenses aventures. Il comprendra par la suite que courir au milieu d'un champ de tir, c'est dangereux. C'est Maxime.
Ouais.
Bonjour.
Eh bien,
en
pour
japonais.
Ceux qui
sont... Ah, t'as traduit, merci.
Ouais, merci.
Pour les cinéphiles qui nous écoutent, hein, on va bien entendu parler du film japonais. Les 7 samouraïs.
Itadakimasu tout le monde. Hein.
Voilà.
Ouais, bah, j'ai un peu de vocabulaire. Ouais.
T'as chié à Maxime Dessou. Hein, donc.
Donc à partir, à partir okay, de ce moment-là.
C'est tout ce que j'ai.
Donc c'est un film japonais, vous l'avez subtilement compris. C'est Les 7 samouraïs, réalisé par Akira Kurosawa en 1954, avec, pour ne citer que, Takashi Shimura et Toshiro Mifune. On a donc, bien entendu, vous les attendiez, les Américains, qui ont fait un remake qui s'appelle Les Sept Mercenaires, The Magnificent Seven, un western de John Sturges, qui lui a été réalisé en 1960. Pour ne citer encore qu'eux, il y a Yul Brynner, et Steve McQueen, hein, quand même, et Charles Bronson. Vous les connaissiez, vous les aviez vus, vous en aviez entendu parler. Est-ce que vous rêviez de les voir ? Est-ce que cette émission était l'occasion incroyable de vous plonger dans les méandres de la vie japonaise et américaine ?
Comme tu me regardes quand tu dis ça, moi je n'avais vu aucun des deux. Je savais que Les 7 Samouraïs, le film original, était un peu un culte du cinéma. Et à chaque fois que j'ai voulu le regarder, dès que je lançais le film, je voyais la durée et je me disais, j'ai peut-être pas...
Mais t'es quand même allé voir le Brutaliste.
Après ça, je suis allé voir The Brutaliste.
Ah ouais, d'accord.
Mais il y a un point commun entre les deux films. L'entracte qui permet d'aller faire pipi tranquillement et puis d'aller manger un petit muffin au chocolat.
Voilà. Se faire dessus n'est pas conseillé.
Non, mais se tirer les jambes, tout ça. Donc voilà, je n'avais jamais vu aucun des deux.
Moi non plus, je n'avais jamais vu aucun des deux. Les 7 samouraïs, oui, entendu parler aussi, mais pas eu trop la motivation jusque-là. Et... Bon, on va dire notre avis plus tard,
bien entendu.
Eh ben, moi non plus. Je connaissais deux noms. Parce que bon, cinéphile quand même, hein, mais non, j'ai découvert.
Oui, alors moi, j'avais vu Les 7 samouraïs. Je le dois l'avouer au moins 2-3 fois, puisque ma mère l'avait en cassette vidéo et que j'avais apprécié déjà, même si j'étais jeune. Et Les 7 mercenaires, alors ça ressemble à n'importe quel western, donc peut-être que je l'ai vu, mais j'en ai pas de souvenir, donc il est probable que non.
Un de ceux pour la sieste.
Exactement, celui dimanche après-midi, pendant le poulet et les patates, quoi.
Après Walker Texas Ranger.
Oh, la déprime.
Je pense que c'est typiquement le genre de film qui devait passer le dimanche soir sur TF1.
Ah ouais.
Alors, pour qu'on comprenne mieux un peu notre enthousiasme, hein, il faudrait peut-être résumer l'original, si quelqu'un veut bien s'y coller.
Oui, je veux bien improviser.
comme si c'était pas prévu. C'est super sympa. On est sur une base de volontariat, donc vas-y, Géraldine.
Dans le Japon médiéval, en 1586, le Japon, ravagé par des guerres civiles, les paysans sont fréquemment opprimés par des brigands qui les rançonnent, et une troupe de bandits à cheval s'apprête à attaquer un village, mais décide de reporter l'attaque en attendant la prochaine récolte. Un des paysans, Yohei, a surpris la discussion et court aussitôt avertir les autres villageois. Ces derniers sont effondrés, à l'exception de Rikichi, qui essaie de trouver une solution. Ils finissent par consulter l'ancien du village qui, à la surprise de tous, rejoint l'avis de Rikichi et conseille d'engager des samouraïs pour défendre le village. Et on y vient. Une petite bande de paysans donc partent en vadrouille pour trouver ces samouraïs, mais le recrutement n'est pas de tout repos. Ils rencontrent un vieux samouraï, Kanbei, qui a accepté de sauver un enfant qu'un voleur retient en otage dans une grange. Puis viennent se greffer trois autres, puis deux autres encore, avec des personnalités bien distinctes. Et vu que vous êtes expert en mathématiques, donc ça fait 1 plus 3 plus 2, ça fait...
7.
Non, ça fait 6, Maxime. Pendant ce temps, donc, un des villageois coupe de force les cheveux de sa fille, Shino, et lui ordonne de s'habiller en garçon pour la protéger du danger que représentent à ses yeux ces fameux samouraïs. De leur côté, les samouraïs se mettent en route, accompagnés par Kikuchiyo, qui s'entête à les suivre malgré un désaccord évident. À l'annonce de leur arrivée au village, au lieu de les accueillir, tous les paysans courent se cacher, laissant la place déserte. Une alerte retentit, mais en fait c'était un test, sûrement un petit con qui avait appuyé sur le bouton de l'alarme incendie. Les villageois sortent des maisons et Kikuchiyo, qu'on appellera le samouraï charismatique, il les sermonne, puis tout le monde l'adore au final. Donc ce sera donc...
Les sept salauds.
Le septième salaud mouraï. Puis donc s'ensuit des scènes de tactique défensive, une moisson, un incendie, une destruction de pont, des scènes de love entre la John Chino et le samouraï charismatique, puis une grande bataille finale avec des morts. Fin.
Bravo. Ah, moi je l'ai appelé le trop fort, le charismatique. Ah, ouais.
Alors on parle pas du même, je crois.
Ah, bon,
charismatique, vous pensez à celui qui est bourré à un moment, celui qui est super doué ou le disciple?
Je sais plus, j'y ai vu il y a un an et demi.
Je me permets, moi j'ai pris des notes parce que leur prénom, j'ai un peu du mal à m'en souvenir, et même si j'adore la culture japonaise, je n'avais aucun moyen de me souvenir des prénoms.
La culture japonaise,
donc je leur ai donné des surnoms. Le 1, c'est le chef, donc c'est celui qui se rase les cheveux au début, on l'identifie assez facilement.
Le grand schtroumpf.
Voilà.
Qui est aussi appelé le Morgan Freeman japonais, je suis désolée mais c'est avéré.
Ah, ok.
Ensuite, il y a l'apprenti, donc c'est le jeune qui les suit et qui va justement... côté avec Shino.
C'est le disciple. L'excité, quoi.
C'est le plus
non,
jeune.
Le
non, c'est le disciple, ah, oui. Celui qui suit pour... voilà, l'excité, c'est, alors, c'est ce qu'on appelle dans, communément, dans le jargon cinéma, c'est le trickster. C'est souvent quelqu'un qui est un peu l'outsider. Oh, j'utilise des anglicismes.
Le trickster, l'outsider.
Le trickster, c'est souvent
je comprends absolument
un blagueur qui va être là pour un peu révéler les vérités. Il va souvent cacher son identité et c'est celui qui au début fait croire qu'en fait c'est un samouraï alors qu'en
samouraï.
Fait on découvre finalement que son matériel il l'a plus ou moins volé quoi. Mais c'est celui qui a un grand cœur parce que c'est souvent celui qui va prendre les villageois et un peu les engueuler, les bouger. C'est un peu le clown quoi. Bon, le jour on l'appelait le clown plutôt que le trickster si vous voulez. Et ensuite il y a le trop fort, donc c'est celui qui dort beaucoup contre les arbres. Par contre quand il se réveille il défonce tout le monde. Et les autres, j'ai aucun souvenir. J'aurais pas donné le nom, je leur ai donné numéro 5, 6 et 7.
Ah, du voilà. Coup, j'aurais confondu peut-être l'apprenti et le trop fort.
Je pense, parce que t'as dit le charismatique, il les rejoint en dernier et fricote avec la fille, sauf que c'est pas le même.
Ah mince. Et ben voilà.
On recommence tout l'épisode. Après, si vous avez eu d'autres moyens mnémotechniques pour vous souvenir des trois autres restants.
Dans les trois derniers, oui, il y a celui qui coupe du bois.
Le ouais. Chrom, bûcheron.
Il y a l'ancien ami. Un pote, là, ils se connaissent. Et puis, il y a un peu le rigolo, quoi.
Le schtroumpf friendly.
Ouais. Alors, le rigolo et l'ancien ami, ils se ressemblent vraiment, vraiment beaucoup.
Vincent, dans un épisode précédent, tu nous avais tenu tête en disant qu'on avait vu un film en noir et blanc qui était en couleur. Cette fois-ci, c'est un film En noir et blanc.
Noir et blanc.
Ne te trompe pas, hein. T'as pas vu de couleur, hein, Vincent.
Ça se trouve, mais dans mon cœur, il est en couleur. Est c'est daltonien, peut-être. Non
oh.
C'est un bon daltonisme, voilà.
Ou un chien, ouais, ou des yeux de chien, peut-être.
En fait, il ne voit pas aucune couleur. Voilà,
ou alors, j'étais bourré.
Alors, je dis ça parce que je pense que c'est l'une des choses qui fait qu'on a un peu plus de mal à identifier les personnages, c'est que on aurait pu se baser sur leur tenue, ils auraient pu avoir un peu façon Power Rangers des tenues différentes ou enfin
le kimono rose, le kimono
bleu. Et là le fait que bah la technologie nous oblige à regarder ce film en noir et blanc, ça platit un peu tout et moi j'ai un peu du mal à discerner les trois autres samouraïs qui sont, avouons-le, un peu plus discrets que ceux qu'on a nommés quoi. Je m'attendais vraiment à ce que les sept soient très identifiés. En fait, on a l'impression qu'il faut juste en avoir sept et puis voilà quoi.
Bah, c'était le compte qu'il fallait quoi. Mais après, sur le noir et blanc, moi j'ai trouvé ça très beau.
Oui,
c'est très beau.
On avait l'impression de voir parfois un documentaire en fait
tableaux,
sur le
aussi.
Japon médiéval. Ouais, des tableaux. Il ouais. Y avait une super lumière et tout. Ouais. Notamment pendant la moisson, il y a des plans sur les champs qui sont très très beaux.
Très beau. Moi, j'aime bien dans les bâtiments avec les pans qui viennent un peu cadrer les scènes.
Il y a aussi un personnage important qui est le chef du village.
L'ancien.
Oui. L'ancien.
L'ancien, oui. Le vieux sage, qui a un petit côté Yoda quand même.
Oui, ouais, complètement.
Oui, oui. Il est toujours au même endroit, on a l'impression qu'il ne bouge pas du tout de tout le film, qu'il est assis.
C'est le conseiller. C'est marrant parce qu'au début, ils sont en mode « Ah non, c'est encore fait piller par les brigands et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah, je sais pas, on peut pas rester comme ça. Allons voir l'ancien. »
Mais je pense que c'est un vrai truc de village, même, ouais. Même en Europe, d'avoir toujours les figures d'anciens qui ont juste comme médaille d'être un vieux, quoi.
Bah, ouais. Non, c'est parce que sage, ils ont l'expérience. Oui.
C'est vrai qu'à partir du principe où ils ont survécu tout ce temps, c'est qu'ils ont une expérience, en effet.
Oui, mais en fait, plus quand même... Enfin, tu dis en Europe, oui, mais quand même beaucoup moins. Je trouve qu'on respecte beaucoup moins les vieilles personnes.
Maintenant, peut-être.
Peut-être maintenant, ouais. Mais dans les cultures asiatiques, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de respect et justement d'appréciation de cette sagesse. Et du coup, on a l'impression qu'il est tout le temps en train de méditer au même endroit.
Ouais.
Alors qu'en fait, il fume des gros joints.
C'est ça.
Il mange tout le riz.
Alors qu'en fait, c'est vraiment un branleur, quoi.
It's a phenomenon known as déjà vu.
Il y a un truc un petit peu vicieux, mais ça fait partie aussi de ce truc-là, c'est que les bandits, en fait, au tout début du film, ils arrivent et ils se disent « Ah, mais on a déjà pillé ce village-là l'année dernière. Bon, on va le refaire. Par contre, on vient un peu trop tôt, donc on va attendre qu'ils aient leur récolte. » Et on va les piller. Donc, t'as tout le village qui est en train de faire ses récoltes.
Qui sait qu'ils vont arriver, quoi.
En sachant, en disant, mais en fait, on fait tout ça pour se le faire voler juste après. Donc, on a très vite aussi ce sentiment de petits villageois qui sont à l'abandon et puis sans défense. Et aussi, on comprend que c'est vraiment... toute leur vie tourne autour de ça. Autour de la bouffe et de la bouffe qu'ils produisent. Et en fait...
Alors que nous,
alors, on n'a pas du tout plein de bouffe autour de la table.
Ils sont ultra consuméristes, en fait. C'est ça le message. Je ne veux pas du tout partager.
Il y a quelque chose de très important, je trouve, dans ce film. C'est que donc il y a des villageois qui partent plus loin pour aller trouver des samouraïs pour se défendre. Et en fait, la seule chose qu'ils leur proposent, ce n'est pas de l'argent, c'est de la bouffe. Et on comprendra plus vite dans le film qu'en fait, ils n'ont pas vraiment plus besoin de bouffe que les villageois eux-mêmes. En fait, on va aussi comprendre qu'ils vont défendre le village plus par honneur que par appât du gain.
Alors, c'est pas honneur, je pense que c'est un peu... Ils ont recruté des samouraïs qui sont un petit peu... soit qui n'ont pas de mission en cours ou qui sont un peu désœuvrés, donc finalement contents de se joindre à quelque chose qui fait sens avec un groupe, quoi.
Ils veulent buter des mecs, quoi.
Puis ça leur fait de la visibilité.
vous jouez, on vous paye pas, mais vous serez visible.
On fera un post Instagram.
C'est un peu un stage, quoi.
Exactement.
Ils sont pas vraiment payés, mais...
Par contre, vous pouvez mourir, mais bon. Voilà. Non, bah moi...
C'est vrai qu'ils le disent. Le chef, on comprend très vite, et il est caractérisé comme ça, c'est qu'il va, dès le début, en fait, il va sauver un enfant.
C'est le rassembleur.
Donc on sent que c'est un mec qui il a des valeurs. Et en fait, on peut pas l'acheter, quoi. On l'achète avec des valeurs. Et viens sauver des gosses. Oh, je suis pas sûr, bah, ils vont crever à cause de toi. Bon, allez, j'y arrive.
C'est un film que j'apprécie. Même si tout est un peu exagéré, t'as le côté désespoir au début. la quête, enfin vraiment essayer de recruter, tu vois, la difficulté pour trouver des samouraïs qui seraient partants pour rejoindre le groupe. Ensuite, t'as toute la partie stratégie, hein, vraiment un côté épique et où chacun trouve sa place, où il y a aussi des, bah, quand même des choses sur la culture japonaise de l'époque où t'as vraiment le rapport samouraï avec paysan, aussi le rapport à la famille. Finalement, ils sont complètement peureux. Enfin, il y a l'honneur, quoi. Faut pas que sa fille se fasse toucher par un samouraï, sinon c'est pire que tout, même que mourir. Enfin, voilà, il y a plein de valeurs qui sont mises en avant, un peu lourdement parfois, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est bien, bien amené quand même.
Et on parlait des récoltes et tout ça, et je trouve qu'on ressent beaucoup la faim,
oui,
des villageois au début. Dans tout le film, en fait, tout est dans la longueur, et c'est un choix de la part du réalisateur, mais du coup, on a vraiment le temps de ressentir les émotions et les sensations. Dans la mise en scène, etc., on voit bien qu'ils sont tout faibles et tout ça, et qu'ils n'ont plus rien, quoi.
C'est ça.
Ils mangent pas leurs 5 fruits et légumes par jour. Hein.
Ah bah ça.
Ça, c'est... Mais c'est là où tu te rends compte que bah, la diversité alimentaire, c'est aussi un luxe. Parce que, alors, c'est... qu'est-ce qui cultive ? Parce que, alors, je l'ai vu avec des sous-titres anglais, mais je connaissais pas le mot.
Millet.
Ouais, du millet.
Du millet.
Il y a le riz, qui est le truc le
bah,
plus
oui,
noble.
Ouais.
Et eux, quand ils donnent le riz aux samouraïs, ils se mangent du millet qui est beaucoup moins riche, apparemment, qui nourrit moins bien, quoi.
Ça, c'est sûr qu'ils ne mangent pas trop gras, trop sucré, trop salé. Hein.
Oh non, à Paris, il y a le saké.
Ah oui.
Oui, mais c'est fait avec du riz. Donc,
oui, en mais fait, tu perds, je ne sais pas si tu as beaucoup de que...
Non, non, mais tu te rends compte que tout tourne autour d'un seul ouais, ingrédient. Quoi. Et tu ne les vois pas manger de viande à un seul moment, alors que pourtant, ils butent des chevaux. Hein, ils pourraient...
Ah.
Ah, en parlant de ça, j'ai pris une note. Parce que tout à l'heure, Géraldine, tu racontais qu'il y avait plusieurs attaques du village. Et en fait, en effet, ils font un stratagème en bloquant des entrées du village, en fait, pour essayer de laisser entrer un par un les cavaliers pour pouvoir les encercler à chaque fois. Et j'ai noté qu'il y avait des sacrées cascades, tout pour l'époque, et que je pense, j'ai pas fait de recherche, je pense qu'il y a eu plusieurs blessés quand même. Mmh. Il y a littéralement, j'ai passé plusieurs fois, il y a littéralement une scène où il y a un cheval donc, qui passe, et il y a des villageois qui donnent des coups de bâton aux cavaliers, et le mec tombe, et il se fait piétiner par un cheval. Je sais pas si vous avez...
Non.
Enfin, je me suis rendu compte,
ah, oui,
je me suis dit, putain, c'est fou, quoi. Et ensuite, sur une note un peu plus drôle, il y avait une attaque à un moment avec des chevaux et il y a un soldat qui a un arc, donc c'est un archer sur un cheval. Et je me suis dit que ça tombait bien parce qu'on a une spécialiste autour de la table qui a déjà fait un stage de chute de tir à l'arc sur cheval.
Oui.
Mélissa.
Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette scène
de...
Est-ce que c'est crédible.
Ouais, toi ouais, qui es cascadeuse, du coup.
Oui, oui. Mais nous, on visait des ballons de baudruche, donc c'est, un autre, c'est une autre proie. C'est, un...
c'est super petit, un ballon de baudruche.
Ah oui, mais.
T'as vraiment fait le mini-jeu dans Zelda, quoi, quand t'essaies
bien d'avoir ton arc. Exactement. Et puis on a peint nos chevaux comme des chevaux indiens aussi. On dormait dans des tipis. Là, tu me lances sur une anecdote.
On veut tout savoir. Ah, mais en fait, les westerns, ça te connaît aussi.
Finalement. Oui, oui, oui. Bah, il m'a jeté dans les orties, donc c'est vrai que je comprends. Hein, celui qui s'est fait piétiner, c'est. On peut avoir des séquelles. Des séquelles sur le long terme. Là, je ne m'aventurerai pas là-dessus.
Merci,
je suis
merci
plus,
l'experte.
Je suis plus comme avant.
On fera appel à vous à
mais
nouveau
nous,
si.
On tirait ou pas. Hein. On s'arrêtait. Non,
mais en vrai, c'est super difficile.
On descendait de cheval. On allait le brosser.
C'est le cheval qui tirait.
Puis c'était du paintball, mais c'est quasiment pareil.
Bah, il y a des armes à feu hein, dans le film aussi.
Oui, c'est vrai qu'il y a des armes à feu dans le film.
Tu d'ailleurs, vois, c'est un peu l'ennemi. Enfin, il y en a trois, je crois qu'il y a trois pistolets. Donc, en gros, ils adaptent leur stratégie parce que bah, là, clairement, si tu te fais canarder, t'as peu de chances de survie. Donc, ils essaient de voilà, désarmer. Il y en a même le fort, là, il s'infiltre un soir. Ouais. Chez les brigands pour leur voler une de leurs armes. Donc lui, s'il peut faire les choses sans tuer tout le monde, ça lui convient plutôt bien.
Après, on ne voit pas ce qu'il fait. Hein. C'est ce qui est d'autant plus joli, c'est qu'on le voit partir.
Parce qu'il voit
tout le monde l'attendre.
Et il revient avec un fusil, tu fais... Mais c'est ce qui est génial, je trouve.
Ce qui est intéressant.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Peut-être nous, ça ne nous parle pas, mais c'est sur un peu les traits de personnalité très différents, où lui est très fort, mais bah, on ne montre pas quand il a accompli un truc incroyable. Et il ne s'en vante pas non plus. Alors que Mifune, quand lui, il veut faire exactement la même chose, tout capote et puis il veut que tout le monde voit qu'il a accompli quelque chose. Ce qui n'est pas forcément, voilà, il n'y a pas d'idéal, mais ça montre que la reconnaissance, chacun la cherche un peu différemment. Et c'est beaucoup aussi sur les incompréhensions, parce qu'on apprend que le fou, là, le trickster, donc Toshiro, il est finalement un ancien enfant de paysan qui rêve d'être samouraï et se fait passer pour un samouraï. Mais à un moment, on comprend qu'il a vécu un traumatisme. Ses parents ont été tués lors d'un assaut ou d'un raid. Je ne sais pas si on peut parler de ça.
Un raid médiéval.
Un raid médiéval. Donc, on comprend la blessure un peu et ce besoin de montrer qu'il est capable d'accomplir des choses et qu'il veut appartenir aussi à leur clan. Quoi.
Et d'ailleurs, lui aussi arrive à avoir un fusil, mais il utilise la ruse. C'est-à-dire qu'il va repérer un des brigands. Il va lui parler comme si c'était l'un des siens. En fait, il va le rouler pour finalement récupérer son fusil.
Par contre, il y a juste un truc que je n'ai pas compris qui est là sur les valeurs qui me dépassent un petit peu. C'est donc Richie.
C'est lequel ?
Un des paysans. Ah. On comprend qu'il a un trauma quelque part. À chaque fois qu'on parle du fait qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas de femme, il se cache, il jette des trucs, il se met contre les murs, tu vois. Et d'un coup, tu te dis, ouais, y a une blessure quelque part. Et quand les samouraïs décident d'attaquer les brigands directement dans leur hutte, on réalise que la femme du paysan avait été enlevée et était prostituée auprès des brigands. Et au lieu de retourner avec son mari, elle décide de retourner dans le feu et de mourir brûlée. Donc au début, j'ai rien compris, donc j'ai dû lire un peu des choses. Et après, soit il la traitait vraiment très mal et elle n'a pas envie de rentrer à la maison. Soit apparemment, c'est le fait que son mari la voit après qu'elle ait été touchée par d'autres hommes qui est insoutenable au niveau de l'honneur et qu'elle préfère mourir dans les flammes plutôt que de revenir à la maison comme si de rien n'était. Quoi. Donc là, c'est quand même un truc assez fort et un peu extrême comme code d'honneur.
Mais il y a le code d'honneur des samouraïs aussi.
Le Bushido.
Le Bushido. Du coup, on en avait parlé un petit peu quand on avait parlé de Ghost Dog.
Ouais.
Est-ce que vous avez retrouvé d'autres similitudes ?
Bah oui, en fait, il y a vraiment cette histoire de principe. Par exemple, j'ai vu une série il y a quelques temps qui s'appelle Shogun, où on parle aussi pas mal de ça. En fait, il y a tout un truc sur l'honneur et la mort, et en fait, on va souvent s'attendre à des personnes qui se donnent la mort si jamais ils ont fait un déshonneur. Et des fois, ce qui peut paraître pour nous, Européens vivant en 2025, assez étrange. Hein. Par exemple, juste quelqu'un qui coupe la parole à un chef de clan, on va s'attendre qu'il se donne la mort. Bon, je pense que ça ne se fait plus au Japon moderne, mais c'est vrai que c'est des valeurs qui sont un peu loin des nôtres.
Alors de ce que j'ai compris lors de mes recherches, que je ne suis pas du tout en train de faire en live, c'est qu'en fait, il y a aussi un peu un aspect politique dans le film au moment où c'est sorti. A priori, c'est aussi pour répondre à l'occupation entre guillemets américaine suite à la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour remettre en avant un peu les valeurs fondamentales de la culture japonaise, donc avec notamment ce code de l'honneur là, des samouraïs.
Tout en ne l'idéalisant pas. Parce que le fait qu'un des paysans veuille cacher sa fille, lui, il pense que c'est pour son honneur. Mais on voit bien qu'il est quand même jugé par les autres pour son égoïsme et le fait qu'il pense avant tout à sa fille au lieu de penser au bien-être du village. Et pareil, les samouraïs se rendent compte qu'ils sont là pour aider, mais que les paysans leur cachaient des réserves de saké et de riz. Et donc, ils ne sont pas totalement honnêtes sur leur désespoir. Après, on comprend qu'en même temps, les samouraïs, malgré le fait qu'ils pensent qu'ils sont respectés, idéalisés, ils sont aussi perçus comme des dangers. Il y a des samouraïs, je ne sais plus comment on appelle ça, un peu...
Les ronins.
Voilà,
les ronins, c'est les samouraïs sans maître. Ce qui, d'ailleurs, est le cas, normalement, là,
de ceux qui sont là.
De ceux qu'on... des ronins, là.
Oui. Voilà. Mais donc, il peut y avoir des samouraïs qui trahissent aussi leur code d'honneur et qui pillent des villages ou violent des femmes, ce qui, en fait, vient un peu entacher la réputation globale des samouraïs en général. Et à la fin, les samouraïs donc, disent « Finalement, c'est nous qui sommes perdants. » Enfin, ils ont sauvé le village, mais finalement, tout le monde se retrouve un peu à nouveau sans but. Voilà, je trouve que c'est pas non plus en mode « Ce code est à suivre à tout prix », c'est aussi un peu sur l'incohérence et sur les...
Sur les contradictions.
Voilà, les contradictions.
Les paradoxes.
Les paradoxes.
Aussi le sujet de la relation entre les différentes classes, voire castes sociales, tu vois. Donc on a les samouraïs d'un côté, les paysans de l'autre, qui sont pas censés forcément se mélanger. Et là, en fait, ils vont coopérer. Les paysans vont même participer et avoir recours à la violence, alors qu'ils sortent complètement, entre guillemets, de leur...
De leur rôle habituel.
Ouais, de leur rôle habituel, et ils vont également s'accaparer cette lutte armée, quoi.
Ça fait un peu penser à Robin des Bois avec Kevin Costner quand ils apprennent aux paysans à se battre, un peu à se défendre avec les moyens du bord, des lances faites à la main.
Ouais. Je pense que le 7 samouraï a un peu lancé des codes, quoi, parce que le Robin des Bois, comme tu dis, je pense que c'est inspiré de ça. Ce côté où en fait, ouais, les villageois viennent chercher des samouraïs pour faire le sale boulot, et en fait, bah, il va falloir que tout le monde s'y mette, pas de façon égale, parce que les samouraïs ont un statut militaire au-dessus. Mais ils vont pas juste se cacher, quoi. Ils vont participer à la révolte.
Et moi, j'avoue, il y a un côté que j'adore dans ce genre de film. Tu sais, t'as le petit village tranquille et après, t'as toute la phase où ils apprennent, ils créent des systèmes pour se transmettre les armes. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui donne une énergie, moi, que j'aime bien.
Je trouve que la préparation est même plus intéressante que les attaques. Parce que les attaques, on va pas se mentir, c'est très répétitif.
C'est très long.
Comme souvent, d'ailleurs, je trouve, dans les films. Ouais. La phase un peu de préparation ou de recrutement.
C'est plus excitant, quoi.
Tu vois, c'est assez classique, quoi, dans la narration. Mais du coup, OK, on va former l'équipe, on s'entraîne, on apprend des trucs et tout. C'est la phase un petit peu, voilà, tu te projette dans le truc, puis après la bataille...
Là, d'autant plus que c'est pas une bataille,
c'est plus des escarmouches. Quoi.
C'est ça, et c'est très répétitif, parce qu'en fait, ils vont faire, je sais pas, 6 ou 7 fois la même chose.
Ils tombent toujours dans le même guet-apens.
Oui, ils tombent dans le guet-apens. Et à un moment, on se dit, ah, peut-être qu'ils vont changer de stratégie.
Non.
Mais par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un truc très lent, c'est qu'il y a vraiment un plan de bataille avec des petits points à cocher.
Et à barrer
aussi.
T'as
fait un bingo ou pas?
Et en fait, dès qu'ils butent quelqu'un... Il coche et il y a un côté checklist.
Un côté satisfaisant.
Exactement.
Allez, ça c'est fait.
Déjà vu, right?
Alors, j'ai trouvé un truc très drôle, moi, à un moment. J'imagine que vous aussi, parce que Mélissa, tu en as parlé dans ta présentation. C'est que, voilà, le samouraï clown, à un moment, il va voler des affaires et il va se retrouver dans une tenue. Alors, je sais pas si c'est volontairement drôle, mais en tout cas, ça l'est. C'est-à-dire qu'il est à poil avec juste une sorte de petite cuirasse. Donc, il y a un côté un peu ridicule avec ses petites jambes toutes maigres où il est littéralement cul nu. J'ai pas pu m'empêcher de penser à certains jeux vidéo actuels. Je pense que c'est peut-être des références vraiment à cette samouraï, notamment à des RPG. Quand on récupère des affaires dans la première zone de combat, souvent, on a un peu cette tenue. Je pense au jeu Dark Souls, par exemple. Les jeux de From Software où on a un peu l'air con.
Le temps de trouver ton slip et ton pantalon. Quoi.
Je suis persuadé au fond de moi que c'est un peu une référence à ça parce qu'il y a un côté un peu ridicule. Mais à votre avis, est-ce que c'était un choix du réalisateur pour que ça ressemble à quelque chose de ridicule? Ou à l'époque, c'était juste un mec normal d'avoir le cul nu, quoi.
Son rôle est fait pour ça, mais ridicule parce qu'il est un peu foufou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le seul qu'on voit vraiment alcoolisé, donc c'est quand même un moment assez peu flatteur pour lui.
Il
n'arrive pas à marcher, on lui vole son sabre. Je ne sais pas quel est le symbole, mais je pense que si quelqu'un arrive à te voler ton sabre,
c'est que tu n'es pas dans un état très classe.
Tu gères pas trop. Quand tous les samouraïs se dirigent vers le village, il les suit à distance, parce qu'il n'est pas encore recruté officiellement avec eux, mais il les suit un peu comme un chien derrière. Il leur montre qu'il peut attraper du poisson à main nue dans la rivière. Enfin, voilà, il a pas trop la classe et la dignité des autres. Ouais, non, mais voilà. Ce qui fait qu'il est recruté, c'est que quand les samouraïs arrivent au village, tous les paysans se cachent. Alors qu'ils sont là, mais on vient vous aider, pourquoi vous vous cachez? Et lui, il lance une alerte, et d'un coup, tous les paysans sortent en mode « Aidez-nous, aidez-nous, il y a des méchants !» Et en fait, il leur fait comprendre qu'il a sonné l'alerte pour leur montrer qu'ils sont hypocrites. Parce que dès qu'il y a un souci, ils viennent pleurnicher, alors qu'ils ne sont pas capables de les accueillir dignement. Donc c'est à ce moment-là qu'il est recruté, parce que son côté un peu foufou, sortir des codes, fait qu'il arrive à toucher un peu la population différemment des autres samouraïs qui sont plus droits dans leurs bottes. Donc c'est un personnage intéressant, je trouve.
D'ailleurs, il arrive à être recruté juste après un monologue qui est probablement le plus touchant, on va dire. Il s'ouvre aux autres en pleurant et en hurlant, en expliquant ce que vivent les villageois. Et je pense que c'est un petit peu ça qui va faire qu'il rentre dans l'équipe. Parce qu'auparavant, on a vu que le chef avait une technique pour recruter les samouraïs un petit peu seulement sur les capacités militaires. C'est-à-dire qu'il va les inviter dans sa cabane et il va y avoir l'apprenti qui va essayer de leur tendre un piège en donnant un coup de bâton. Mais c'est intéressant parce qu'au début, ils sont recrutés seulement pour des qualités vraiment physiques et lui, il va rentrer à la fois encore par la ruse, là plutôt en se livrant, quoi, plutôt pour ses qualités de cœur, quoi, parce que c'est un peu lui qui va être
de cœur et de forceur.
Ouais, mais il a un côté
près de rouille et d'os.
En fait, c'est le gamin qui arrive. Je peux jouer avec vous ? Non, dégage. Et après, il les suit partout.
Et j'ai du poisson.
Mais au final,
c'est. Un peu... il va chercher le ballon, du coup, ouais, vas-y, tu peux jouer avec nous.
C'est lui auquel on s'identifie le plus.
T'avais pas d'amis, Maxime ?
Non, mais moi, j'étais pas.
Pas jouer au ballon ?
T'étais choisi en dernier dans l'équipe.
Oui, ça, c'est vrai.
Moi aussi.
Non, mais parce
moi,
qu'en
j'étais
fait...
le ballon.
Moi, j'étais l'arbitre alors qu'il n'y avait pas besoin d'arbitre.
Et Mélissa, bref. Non. Et Mélissa, elle avait...
Mais